Le fait de votre vie commune va d'abord changer votre condition juridique, c'est-à-dire le mode de votre fonctionnement dans la société. Le changement le plus apparent, c'est le changement de nom pour l'épouse, par exemple, mais aussi la destination de vos biens, mais aussi le statut des enfants qui vont naître. Bref, il y a une dimension sociale du mariage sans laquelle la famille ne serait ni stable, ni solide, ni protégée par personne. Et c'est pourquoi votre foyer n'existera que lorsque vous aurez publiquement pris la charge l'un de l'autre, avec les responsabilités que cela implique dans tous les domaines. Et c'est toute cette vie sociale que le Christ vient assumer, vient habiter dans le mariage, puisque nous allons voir aussi que le mariage devient alors un sacrement. Certes, on se passe volontiers du maire et du curé parce que des convenances personnelles, par exemple des avantages fiscaux, font souhaiter un mariage privé, privé entre guillemets, sans que cela mette pour autant en cause l'indissolubilité ou la fécondité à laquelle vous croyez. Mais cette privatisation du mariage met véritablement en cause la vie sociale comme telle. Et il est banal de dire que notre époque souffre d'individualisme, c'est-à-dire d'une trop faible perception de la responsabilité sociale, c'est-à-dire de la responsabilité que nous avons tous envers l'ensemble de la société. Nous avons déjà vu pourquoi, au fond, un mariage n'est jamais une affaire purement privée, et pourquoi un lien essentiel existe entre la famille et l'ensemble de la société, puisque le don mutuel des époux porte en son cœur un accueil de l'humanité tout entière et d'abord de la vie sociale qui va naître autour de la famille et qui va peu à peu faire de cette famille la cellule de base de la société. Une autre raison que l'on invoque souvent pour ne pas s'engager publiquement dans le mariage, et la prudence tout simplement. On se dit qu'il faut d'abord essayer, et sans trop savoir si plus tard on passera devant monsieur le maire et monsieur le curé, on cohabite et puis on verra bien. Il y a là une contradiction profonde, parce que l'amour est exactement ce qu'il est impossible d'essayer. L'amour est ou n'est pas. Alors, on essaie d'aimer, c'est une affaire entendue, mais on n'aime pas à l'essai. Aimer à l'essai, c'est refuser d'aimer, si l'on réfléchit un petit peu. Exactement comme donner à l'essai, ce n'est pas donner du tout. Donner, c'est toujours abandonner. Aimer, c'est toujours s'abandonner à l'autre. Certes, il faut être prudent avant de s'abandonner à l'autre, mais la prudence consiste à réfléchir, non pas à faire semblant, parce que ce n'est pas possible tout simplement. Prétendre se donner pour voir l'effet que ça fait, en se réservant de surprendre, c'est passer à côté de ce qui fait justement que le don est un don, que l'amour est l'amour, c'est-à-dire passer à côté d'un don irrévocable. De plus, comme cet essai va généralement privilégier ce qu'il y a de plus facile, être plus agréable dans la vie conjugale, on risque tout à fait de s'enfermer dans un rêve de mariage et on se prépare alors à tout sauf au don mutuel, libre justement des pesanteurs de l'instinct et de ce qu'il peut offrir d'agréable, qui définit justement le mariage. Nous avons vu, à propos de la différence entre régulation des naissances et contraception, que la dimension charnelle de l'amour s'inscrit dans ce don total et suppose ce don total, que c'est du cœur qu'une relation reçoit sa vérité, et que on ne peut pas commencer par le corps, que